Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h18 ce soir, le grand débat du Club des Idées. On s'intéresse au grand business de l'occasion, car c'est devenu, c'est vrai, depuis peu, un phénomène de consommation qui connaît un boom particulier pour les fêtes de fin d'année, on va en parler. Près de 2/3 des Français disent acheter des produits d'occasion, de la perceuse à la machine à laver, les vêtements, les téléphones mobiles, tout y passe. Ça permet de faire évidemment de sacrées économies et de valoriser une consommation plus responsable aussi. Et même désormais, les grandes enseignes comme Cdiscount ou La Redoute s'y mettent. Alors est-il possible d'arrêter d'acheter du neuf et comment éviter les pièges et les arnaques? On en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir Pascal Hébel.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du pôle consommation et entreprise du Crédoc. On en parle également avec Marine Foulon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable communication Zero Waste France et à l'origine de l'initiative Défi Rien de Neuf qui est lancée chaque année le 1er janvier, je crois, c'est ça ?
C'est ça.
Et on en parle également ce soir avec Olivier Guéraud. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste à l'association de consommateurs CLCV. Alors d'abord, je vais commencer avec vous, Pascal Hébel. Comment expliquer ce grand boom de l'occasion qui séduit tout de même 58% des Français, hein, 58% des Français disent avoir acheté au moins un produit de seconde main sur l'année. C'est 3 fois plus qu'il y a 15 ans. Donc, ce n'est pas un micro-phénomène, c'est vraiment une lame de fond.
Oui, c'est 8 milliards d'euros. Donc, c'est un marché qui commence à peser fortement et c'est un marché qui fait 24 fois plus de croissance que le marché traditionnel, que le marché neuf. Donc, ça s'est vraiment développé au début de la crise économique précédente, donc 2008-2009, parce qu'il y a eu une conjonction d'une crise économique et le développement des plateformes web qui ont permis à des gens de se mettre en contact avec d'autres. Et donc, c'est vraiment ça qui a lancé.
On pense par exemple au Bon Coin.
Voilà, tout à fait. C'est le premier.
eBay.
2005.
eBay.
C'était eBay
français,
avant.
Mais qui est américain.
Et donc, le Bon Coin l'a remplacé. Et le Bon Coin, finalement, il a permis de créer un lien de confiance parce qu'il a pensé à la géolocalisation et vous pouviez donner, rencontrer celui à qui vous alliez vendre le produit ou celui à qui vous alliez l'acheter.
Mais c'est vrai qu'avant, c'était plutôt un marché de niche. C'était le grand business de la brocante et du vide-grenier organisé par les plateformes. Mmh. Mais c'était du B2B. Maintenant, on est passé dans autre chose quand même.
Oui, donc il y a vraiment des intermédiaires qui se sont mis en place. Et ce qui pèse le plus, c'est en effet, c'est ça, c'est par les plateformes web, hein, c'est 30% qui passent par ces plateformes web, mais on a encore 9% des transactions qui se font dans des vides-greniers, qui se sont développées aussi. Donc ça se développait auparavant, les dépôts-ventes, hein, c'est assez classique, ça existe depuis très longtemps, quand il y a des crises économiques. Donc c'est vrai que le premier ressort, ça a quand même été le fait qu'on avait envie de continuer à consommer avec moins d'argent, donc on s'est mis sur ces achats d'occasion. Et puis ça s'est même mis en place à Noël. Hein, c'est-à-dire que on était les champions en France pour cette question-là, d'assumer d'acheter des produits, des cadeaux, notamment pour des objets qui coûtaient assez cher, pour des jouets comme des consoles, où on s'est dit pourquoi pas aussi les offrir à Noël. Et on sait que le lendemain de Noël, il y a un boom de vente des biens d'occasion.
Ah oui, ça, c'est le classique.
C'est le classique. À minuit, le 24, vous avez plein d'objets qui sont mis sur la toile. Parce que vous n'en voulez pas, et donc il y a même des objets
mais
que les gens veulent.
Vraiment, la différence, moi c'est un sujet qui me passionne, c'est devenu, et que je suis depuis quelques années, c'est devenu vraiment un mode de consommation à part entière. Avant c'était assez périphérique, maintenant ça n'est plus le cas. Qu'est-ce qui fonctionne le plus dans ce grand marché de l'occasion? Vous voulez répondre Marine Foulon peut-être?
En termes d'objets, vous voulez dire par exemple de plus en plus, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des plateformes spécialisées qui se développent. Donc, on a par exemple Recyclive pour tout ce qui est livres. On va aussi avoir Back Market pour tout ce qui est électronique, électroménager. On va avoir Vinted pour les vêtements, etc. Donc, on peut vraiment trouver de plus en plus de tout. Et on voit que dans les retours d'expérience des participants au défi Rien de Neuf, c'est surtout tout ce qui est vêtements qui prend beaucoup le pas sur les achats d'occasion.
Tiens, on va en dire un mot, justement, Marine Foulon, de ce défi Rien de Neuf. Vous avez la conviction, donc, si je vous suis, qu'on peut fonctionner et consommer uniquement des produits d'occasion et rien acheter, comme son nom l'indique, de neuf. C'est cela le principe ?
Alors, le nom du défi est volontairement provocateur. L'objectif, c'est vraiment d'essayer d'acheter le moins d'objets neufs possible. Et en fait, le premier pas de ce défi...
Parce que là, je suis en train de vous scruter. Parce que je me dis, est-ce que son pull est neuf? Est-ce que sa bague, elle est neuve? Est-ce que votre masque... Non, les masques, ils sont neufs, c'est obligatoire. Mais est-ce qu'on peut réellement consommer uniquement des produits d'occasion? C'est possible, ça?
En tout cas, on peut vraiment réduire au maximum. Et l'idée, c'est vraiment, à chaque fois qu'on a un besoin, de se poser la question, déjà, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet? Et du coup, de vraiment cibler d'aller acheter ce dont on a vraiment besoin et ensuite de se diriger vers l'occasion tant que c'est possible ou d'autres aussi modes de consommation comme l'emprunt ou l'échange, etc. Et du coup, sur l'occasion, il y a de plus en plus d'offres. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de déconstruire un petit peu tout.
Ouais. Les ressorts de la société de consommation qu'on a construit depuis les années 80-90. Alors, on aime bien vous faire partager, vous le savez, dans Europe Soir, des archives. Vous évoquiez les cadeaux de Noël et la revente de ces cadeaux sur Internet. On a une petite pépite à vous faire partager. Ça date évidemment de l'année passée, avec cette maman qui s'offusque un peu que ses enfants revendent sitôt offerts les cadeaux sur Internet. Écoutez.
T'as mis Rayman à revendre sur le bon coin ?
Non, mais faut pas exagérer, il l'a eu hier soir, il a même pas eu le temps de finir, quoi. Le jeu, c'est pas possible. C'est bien la peine de se casser la tête à trouver des trucs à leur offrir, et puis l'autre, il va le revendre dès le lendemain. Faut pas exagérer, hein.
Voilà, il va le revendre dès le lendemain. Pardon, ça me fait beaucoup rire, parce que c'est vrai que c'est le lot de beaucoup de familles, Olivier Guéraud. Il y a la revente des cadeaux sur Internet, bon, c'est un classique, mais qui s'est, là aussi, on peut le dire, démocratisé quand même.
Absolument, la revente des cadeaux sur Internet, ça répond à deux objectifs, maximiser son pouvoir d'achat et puis acheter d'occasion, consommer autrement. Oui. Et les consommateurs le font de plus en plus. La petite difficulté, quand on achète sur Internet des produits neufs ou des produits d'occasion, c'est que selon la personne à qui vous allez acheter, vos droits ne seront pas les mêmes. Mmh. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête.
On a des garanties quand même quand on achète. On va rentrer dans le détail après des secteurs et des objets qu'on trouve sur Internet et qui sont les plus vendus sur ce marché de la seconde main et de l'occasion. Mais on a des garanties. J'ai vu par exemple que quand on achetait des appareils électroniques, on pense évidemment aux smartphones, ça coûte très cher. On peut avoir des smartphones reconditionnés qui permettent d'avoir un produit quasiment à 50% du prix. Reconditionné, ça veut dire qu'ils sont réparés, vérifiés, testés, remis à neuf, et on les achète, je crois, avec une garantie de 2 ans. C'est ce que prévoit la loi, c'est cela ?
Alors, vous avez des garanties légales. Lorsque vous achetez un professionnel, vous avez effectivement une garantie légale de conformité de 2 ans. Et quand vous achetez un professionnel, à titre commercial, il peut rajouter une garantie à lui, effectivement.
Mmh. Parce que c'est ça qui est nouveau, Pascal et Belle, c'est que ce marché s'est professionnalisé avec, on l'évoquait à l'instant, des plateformes, on va continuer d'en parler, mais aussi des acteurs dont le modèle business, dont le business model, c'est le reconditionnement et c'est de proposer des objets d'occasion, mais retravaillés et qui sont donc quasi neufs.
Oui, tout à fait. Donc là, c'était des enseignes très, très anciennes qu'ils faisaient, comme Cash Converters, par exemple. Et ce qu'on voit, c'est comme il y a des grands acteurs qui voient le marché du neuf s'effondrer, et ils se mettent à faire des communautés. Donc on a tout un tas de marques dans l'habillement qui créent des communautés où on peut revendre d'occasion le produit de la même marque. Donc c'est ce qui montre bien que ça a explosé cette année, en 2020, ça a vraiment pris beaucoup de croissance. C'est que ça leur échappe tellement qu'ils sont obligés d'aller sur ça, sur reconditionner, nettoyer les produits. Donc là, évidemment, on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent quand on est un acteur de ce type. C'est juste pour participer au mouvement et finalement aller dans le sens de cette nouvelle clientèle qui est quand même très axée sur l'écologie. C'est-à-dire qu'au début, au démarrage, c'était vraiment les classes qui avaient des besoins qu'ils ne pouvaient pas faire autrement.
Pour des questions de pouvoir d'achat, finalement.
Des questions de pouvoir d'achat. Et les premiers objets dont on avait besoin, c'était tout le marché de l'enfant, de la puériculture, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu une façon... Alors, c'est devenu un signe de distinction. C'est-à-dire que ceux qui le font le plus, aujourd'hui, ce sont ceux qui ont le plus
c'est
de moyens.
C'est un mode de vie. C'est un mode de consommation.
C'est une philosophie. C'est un choix. Je décide de plus jamais acheter de neuf sur certains secteurs.
Avant de marquer une première pause, quelques clés pour les gens qui nous écoutent. Et je sais qu'ils sont nombreux aussi à participer à ce marché de l'occasion. Comment fait-on pour éviter les mauvaises surprises, par exemple sur le reconditionné ? Il faut aller plutôt sur les sites de référence, avec des acteurs installés, regarder un peu les avis qui circulent sur Internet, et puis être sûr qu'il y ait une garantie, c'est ça ?
Oui, alors il y en a qui proposent en effet une assurance, une garantie de 2 ans, de 1 an. Donc à ce moment-là, on est plus certain que l'objet va durer au moins une certaine partie du temps. Et ça fait partie d'aller évidemment vers plutôt des enseignes connues qui sont peut-être aussi physiques plutôt qu'essentiellement sur Internet.
Marine Foulon, sur les objets électroniques.
Oui, puis aussi maintenant on a des baromètres en ligne qui permettent de savoir aussi quels produits sont les plus durables, les plus facilement réparables. Et ça permet à la fois d'évaluer si on veut acheter du neuf, mais ça marche aussi très bien pour tout ce qui est reconditionné.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, la suite du grand débat du Club des Idées. Et ce soir, donc, vous l'avez compris, on s'intéresse au grand business de l'occasion, car c'est devenu un phénomène de consommation. On en parlait avec des chiffres exponentiels. 60% des Français qui disent avoir acheté au moins un produit de seconde main sur l'année. C'est trois fois plus qu'il y a 15 ans. Et je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à l'un de ces phénomènes de l'occasion, c'est sur le vêtement. On assiste vraiment à un nouveau phénomène de mode, marché de 1 milliard aujourd'hui, et on estime que d'ici 10 ans, la part des articles de seconde main aura doublé dans nos armoires. Écoutez à ce propos le PDG de Vinted. Vinted, c'est le numéro 1 du secteur de l'occasion pour les vêtements. Il s'appelle Thomas Plantaga et il parle justement au micro de l'un de nos journalistes du dynamisme du marché français.
Si vous regardez l'ampleur du commerce d'occasion qu'il y a dans ce pays, c'est énorme. Vous êtes les premiers au monde. Pour ce qui est des vêtements d'occasion, je ne connais aucun autre pays ailleurs où c'est aussi développé. Je suis super impressionné par l'écosystème d'entreprises que vous avez en France et comment elles collaborent avec nous.
Voilà, Pascale Ebel, vous êtes directrice du pôle consommation et entreprise du Crédoc. C'est un extrait d'une interview réalisée avec le PDG de Vinted, donc au micro de Mathieu Béliard dans la matinale d'Europe 1. Vinted a vraiment inventé un modèle économique. Le principe est assez simple, c'est-à-dire qu'on crée un portefeuille sur le web, un porte-monnaie virtuel dans lequel on peut acheter et vendre des habits. On les prend en photo, et puis ensuite, c'est la plateforme qui décide ou non, selon l'état des vêtements en question, de les mettre en vente. C'est cela ?
Oui,
et
oui,
la
tout
plateforme
à fait.
Prend,
ouais.
Je crois, 5% de commission ?
Oui, donc il y a une commission qui est faite. C'est le modèle économique est différent des autres sites qu'on appelle des sites d'annonces, comme Le Bon Coin, où c'était avant les petites annonces. Hein, ça existait dans des journaux. Donc là, ils font intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils garantissent qu'il y a que l'objet, donc vous pouvez le renvoyer, ils prennent en charge si ça ne plaît pas.
Oui.
Et ils ont construit leur modèle aussi en s'appuyant sur des producteurs, enfin ceux qui mettent en place les colis, pas chers en fait, hein, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à mettre tout un système qui ne coûte pas très cher en transport. Ils ont négocié avec les plus gros, avec des relais. Et donc, ça ne vient pas chez vous. Hein. Par contre, avec Vinted, vous n'avez pas trop le choix. Vous êtes obligé d'aller le chercher ailleurs. Quoi.
C'est donc plutôt c'est... pratique, ça, parce qu'on n'est jamais chez soi. Et souvent, les colis, ils arrivent, vous n'êtes pas là, parce que c'est souvent entre 11h et 15h. Ça arrive à plein de gens. Ça,
avec
dans
le
les
télétravail, les gens sont un peu plus chez
en
eux.
Moment.
En ce moment, ils sont.
Mais
bon, après, selon l'endroit où on est, les points relais peuvent être un peu plus loin, en fait. Hein. C'est sûr que.
Et ça marche du tonnerre. L'application a été lancée en 2008. 21 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 9 millions en France. Qu'est-ce qui fait, je vous pose la question, Marine Foulon, vous êtes responsable communication de Zero Waste France, qu'est-ce qui fait que nous, les Français, on est particulièrement friands de ce marché de l'occasion, qui plus est pour les vêtements? Parce que c'est vrai que ça ne va pas de soi pour les vêtements, c'est un truc un peu personnel, on l'a porté, on l'a sali, on l'a lavé, voilà, le vêtement, on aime bien l'acheter jusqu'à présent, on aimait bien l'acheter neuf, bah, plus maintenant.
Bah après, on reste du coup dans cette logique un peu de fast fashion, donc c'est-à-dire qu'on renouvelle très rapidement nos vêtements. Donc en fait, on reproduit ce même schéma à l'heure actuelle, même dans le secteur d'occasion. Donc on continue à vouloir renouveler rapidement, à avoir des collections différentes, à suivre un peu le mouvement. Donc c'est ça qui se reproduit.
Donc c'est une façon d'être à la mode sans dépenser trop, en fait.
Oui, voilà, c'est un peu ça, et surtout de renouveler rapidement, c'est ça.
Parce que
aussi,
vous parliez tout à l'heure d'éthique. Donc là, on est moins dans l'éthique plutôt que dans... la société de consommation bis, qui coûte un peu moins cher, mais qui repose sur les mêmes ressorts.
Oui, c'est effectivement sur ça que je voulais un peu pointer le doigt, parce qu'on a tendance à se dire que voilà, parce qu'on achète d'occasion, c'est forcément un geste écologique, mais c'est vrai qu'il faut toujours penser à vraiment remettre en question son rythme de consommation et à réfléchir comment faire autrement réellement. Voilà, parce que on reste vraiment dans ce rythme de fast fashion,
oui,
et de renouvellement.
Oui. Alors après, si les habits passent d'un consommateur à l'autre, il y a quand même moins l'idée de fabriquer pour consommer. C'est-à-dire que les produits, oui, peuvent avoir une seconde vie, une troisième vie, une quatrième vie. Olivier Guéraud, vous êtes juriste à l'association de consommateurs CLCV. Il existe là aussi des pièges et des arnaques à éviter quand on achète des vêtements d'occasion ?
Quand vous achetez des vêtements d'occasion à un autre consommateur, vous n'avez pas l'application d'une protection importante qui est la protection du code de la consommation. Ça sous-tend beaucoup de choses.
Mais
hein.
Quand on passe par une plateforme,
alors après,
on a l'assurance
vous avez
que
les
le vêtement
garanties.
Va être conforme à ce qui était inscrit, On achète du L, on va pas se retrouver avec du S, qui est pas un trou de cigarette ou un trou de je sais pas quoi qui est caché quelque part. Ça, normalement.
Ça dépend de la plateforme. Ça dépend de ce que la plateforme a mis en place. Celle dont vous parlez, il semblerait qu'elle ait mis en place davantage de choses. Mais vous avez des plateformes qui sont de simples intermédiaires. Et l'incompréhension des consommateurs, elle vient de là. Quand ça se passe mal, naturellement, vous vous adressez vers la plateforme. Et quand elle est un simple intermédiaire, elle vous renvoie vers l'autre consommateur.
Mais ce qui est intéressant, c'est quand même le contrat de confiance dans cette histoire d'occasion.
Quand vous avez quelque chose en plus, bien sûr.
Et quand on peut faire confiance à la personne en face, parce que, évidemment, ça repose sur la confiance. Mais c'est intéressant aussi, cette idée-là.
Absolument.
Bien. 400 000 nouveaux articles sont mis en ligne chaque jour sur Vinted. Ça peut commencer, Pascal Hébel, à concurrencer, parce qu'on va voir après que les grandes marques commencent à s'y mettre aussi, et puis les grandes enseignes. Hein, j'évoquais tout à l'heure, il y a Ikea, il y a La Redoute, il y a Aigle, vous savez, la célèbre marque de vêtements. Il y a tout un tas de marques qui commencent à se positionner sur ce marché de l'occasion. Est-ce que ça veut dire que ces marques institutionnelles, d'une certaine manière, elles ont peur de la concurrence de ce marché de l'occasion ?
Oui, tout à fait, parce que vraiment sur l'habillement neuf, c'est un secteur qui perd 4% par an depuis 10 ans, depuis 15 ans. En fait, c'est un marché qui va très mal.
Combien vous dites de pertes par an ?
Ah ben c'est 4% par an depuis 10 ans, et donc cette année c'est encore pire, bien sûr.
Ah oui.
Donc c'est vraiment un secteur qui a des difficultés, donc c'est pas parce que l'occasion, ça pèse que 3-4% du marché, c'est pas ça qui forcément fait baisser le marché. Et c'est pour ça que Vinted, c'est un succès phénoménal, parce que s'acheter des habits, d'abord on est un des pays qui s'habille le plus, il faut le savoir, on est beaucoup sur le paraître en France, c'est pour ça que le pays de la mode. Et donc en fait, c'est vraiment quand on est jeune qu'on s'habille le plus et où en effet on renouvelle sa garde-robe.
Oui.
Donc on est un des pays où on a une population qui est assez jeune. Et Vinted a été sur ce créneau de l'habillement parce que finalement c'est là qu'il y a le plus d'objets qui tournent. Et on a envie, il y a du troc aussi qui se développe, hein, même sur du vêtement, qui fait de la concurrence d'ailleurs à l'occasion. Hein, il y a 37% des Français qui troquent. Il y a des événements qui sont créés où on va se retrouver, j'apporte des habits et j'en prends d'autres qui ne sont pas à moi. Donc il y a ce besoin de mode qui est important, de renouvellement. Et en effet, ça prend à des marques. Hein, donc il y a Petit Bateau, enfin il y a tout un tas de marques françaises qui sont obligées de faire des communautés pour continuer à renouveler donc, des habits.
Et après, à surfer sur cette mode
sur ça.
De l'occasion. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau. Je voudrais faire une nouvelle petite parenthèse archive avec une petite pépite qu'on vous a ressortie aussi. Parce que souvenez-vous, Bourvil et de Funès, ils avaient commencé à faire d'une certaine manière de la vente de l'occasion, ou en tout cas du prêt d'occasion dans la grande vadrouille, souvenez-vous.
Évidemment, ce n'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là.
Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte.
Quoi ?
Que vous me prêtiez vos souliers.
Bah, vous chaussez du combien ?
J'ai du comme vous.
Voilà, c'est du comme vous. Non, c'est une parenthèse parce qu'on aime bien aussi faire vivre les archives. On en a plein des archives dans nos placards à archives. Il y a un élément aussi qui est assez nouveau. C'est un acteur comme Cdiscount. Cdiscount, c'est une plateforme de e-commerce, un peu à la sauce Amazon, sauf que c'est français, et qui a décidé, il y a quelques semaines, de se lancer sur ce marché de l'occasion. Là encore, c'est clairement pour participer à un marché qui est lucratif. Alors, je ne sais pas si 5% par-ci, par-là, ça rapporte beaucoup à ces plateformes, mais il y a quand même l'idée de participer à ce mouvement.
Ça fait du trafic, parce qu'en fait, son gros concurrent qui est Amazon l'a fait depuis le début. C'est-à-dire que l'objet sur lequel il y a le plus d'occasions, c'est le livre, en fait. C'est-à-dire que même dans...
Qui est le point de départ d'Amazon, d'ailleurs. On l'a beaucoup oublié, mais Amazon, au début, se construit sur l'idée du livre.
Et donc, c'est lui qui a mis de l'occasion aussi sur son site. Et donc, ça a gagné les jeux vidéo, comme le témoignage de tout à l'heure. Et donc, Cdiscount vient, en effet, de se mettre sur ce marché parce que ça fait du trafic sur le site.
Oui.
Et donc, sur ces sites Internet, de fait de pouvoir... si on sait qu'on va aller chercher de l'occasion, et bien évidemment, on est tenté par autre chose et par acheter d'autres biens qui peuvent être du neuf.
Il y a un élément quand même nouveau, Marine Foulon, sur ces plateformes, c'est que ça permet aussi, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais de limiter la perte pour les acteurs du e-commerce. C'est-à-dire que j'ai vu que ces plateformes et ces marques, ça leur permet de recycler les invendus et les produits qui sont défectueux. C'est-à-dire que les produits leur reviennent, qu'ils les reconditionnent, qu'ils les réparent, et ensuite ils peuvent leur trouver une seconde vie sur le marché de l'occasion. Donc rien ne se perd, tout se transforme.
Oui, ça permet du coup dans un sens de limiter les invendus, mais c'est vrai que...
Non, mais c'est intéressant de voir qu'un phénomène qui vient de la société civile, à la base, hein, le commerce et l'échange, comme ça, c'est vieux comme le monde, entre deux individus, est en train d'être capté par des géants du commerce traditionnel. Est-ce que ça vous inquiète, vous ? Est-ce que vous trouvez qu'on est en train de dénaturer l'essence même de ce business de la seconde main ?
Bah, c'est là où il faut se poser les bonnes questions, parce que c'est vrai que souvent ça peut être utilisé dans ces cas-là comme un argument marketing qui va dans un autre sens aussi, pousser à acheter du neuf, comme on le disait, si on est sur la plateforme ou si on est dans un magasin de grande distribution. Il y a des systèmes qui vont faire soit de vente, soit de marketing, que les gens vont être incités à acheter du neuf par ailleurs. Et là, du coup, on n'est pas dans un système vraiment vertueux, vraiment circulaire, qui va faire qu'on évite l'achat neuf et donc tout le gaspillage de matières premières.
Parce que la dimension éthique, elle est vraiment très, très présente chez les consommateurs du marché de l'occasion.
Alors nous, en tout cas, ce qu'on connaît via le défi Rien Neuf, oui, parce que le projet, on l'a lancé via un prisme écologique, celui de réduire le gaspillage des ressources et des objets. Donc nous, les gens qu'on connaît qui achètent d'occasion, ils le font surtout via cette raison et ils valorisent ce geste via leur pratique écologique. Oui.
Pascal est belle. Est-ce que ça modifie aussi notre rapport à nos achats de neuf? Je m'explique. Est-ce qu'on met un peu plus d'argent pour acheter des produits de meilleure qualité parce qu'on sait que derrière, on va plutôt favoriser les produits d'occasion et peut-être avec l'idée déjà de les revendre?
Oui, tout à fait. C'est ce qui s'est développé sur les premiers objets qui étaient plutôt du high-tech, de l'électronique, où finalement, on pouvait se permettre, donc ça relançait la consommation, on pouvait se permettre d'acheter un objet plus cher, des appareils photo, parce qu'on savait que ça avait une valeur à la revente. Ce qu'il y a, c'est que le marché d'occasion, les prix, petit à petit, ils ont baissé. Parce que comme il y a une offre de plus en plus importante, ce qui s'est développé en 2020, c'est plutôt des vendeurs.
Oui.
Comme on est resté chez soi, on a eu tout ce qu'on avait en trop. Les gens, certains ont besoin d'argent. Donc, comme l'offre est de plus en plus importante, le prix moyen de vente est plus faible. Donc, on va moins gagner. Mais en effet, ça milite en tous les cas à avoir des objets qui durent plus, qui ont une durabilité plus forte. C'est-à-dire que vous pouvez le faire sur un vêtement qui va, en effet, pouvoir avoir plusieurs vies.
Question connexe, Olivier Guéraud. Vous êtes juriste à l'association de consommateurs CLCV. Je ne sais pas si vous avez fait des enquêtes là-dessus. Mais on se dit comme ça, intuitivement, que ce marché de l'occasion peut-être pousser aussi les fabricants d'électroménagers, parce que c'est un grand sujet dont on parle souvent, à réduire cette histoire d'obsolescence programmée. On sait qu'aujourd'hui, une machine à laver, ça dure 6-7 ans. Ça dure d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, deux fois moins longtemps qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a une... Normalement, on se dit la marche de l'histoire, c'est plutôt que les choses durent plus longtemps. C'est l'inverse. Mais bon, ça, c'est une chose. Est-ce que du coup, ça les pousse à construire des machines à laver, à construire des fers à repasser qui durent plus longtemps?
Mais vous savez que l'obsolescence programmée, c'est quelque chose qu'on constate tous et que les professionnels ont énormément de mal à reconnaître. Il faut bien le savoir. C'est tout à fait obscur, on ne sait pas ce qu'il y a derrière.
Comme aujourd'hui, il y a des professionnels du reconditionnement qui vous prennent votre machine à laver et puis qui la remettent à neuf. Est-ce que ça pousse les fabricants à améliorer leurs produits?
Alors,
est-ce que vous savez
Je vous avoue que non. Ça, effectivement, on ne l'a pas parce que vous avez beaucoup de mal à les faire s'exprimer sur le concept même de l'obsolescence programmée. Ça reste très, très obscur, ça, effectivement. Mais bon, c'est...
Mais on voit des corners un peu partout qui... Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs pour l'électroménager, des corners de seconde main. Marine Foulon, est-ce que ça existe, ça, pour l'électroménager, la seconde main?
Oui, bien sûr. On a, par exemple, le réseau Envie qui est spécialisé sur le reconditionnement de l'électroménager. Et puis, on a aussi Back Market qui vend plutôt du petit électroménager en ligne. Et pour rebondir sur ce qu'on disait, nous, par exemple, avec le défi Rien de Neuf, l'idée aussi d'avoir un système d'inscription où on peut compter le nombre d'inscrits, c'est aussi un moyen qu'on utilise pour faire pression justement sur les fabricants en disant « Regardez, il y a 50 000 personnes qui essayent de réduire leurs achats neufs au quotidien. Ça prouve qu'il y a une demande de durabilité, de produits...
Et ça marche ? Vous avez l'impression qu'il y a un changement de mentalité qui s'opère ?
On le voit par exemple avec ces acteurs qui se mettent à l'occasion ou qui proposent des offres de réparation, qui proposent des garanties différentes. Donc en tout cas, ça devient quelque chose qui va être encore une fois un argument de vente pour les fabricants.
Alors je le disais tout à l'heure, on assiste aussi à un phénomène assez étonnant. Ce sont les supermarchés, nos traditionnels supermarchés, qui se mettent eux aussi à dédier des corners où les clients sont invités à ramener leurs vieux vêtements en échange d'un bon d'achat, 5 euros, 10 euros, 15 euros. Et ces vêtements sont ensuite revendus à l'intérieur du même magasin. On a suivi il y a peu de temps une cliente d'un magasin Auchan qui découvrait ces rapports, ces corners de vêtements d'occasion. Je vous propose de l'écouter.
Pour l'instant, je regarde, mais je trouve ça très sympa. On réutilise, on ne jette pas, c'est ça qui compte. Moi, la première, j'ai à m'habiller jusqu'à ma mort, à la maison. Ouais, je dois avoir 100 paires de chaussures. Je suis submergée par les vêtements, c'est vrai. Et je ne suis pas la seule.
Bon, ça, c'est un peu maladif quand on achète comme ça. On a fait croire longtemps, d'ailleurs, c'est le travers de la société de consommation, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce qu'elle est belle, on digresse un peu, mais que le bonheur était dans le caddie, que plus on achetait, qu'il fallait acheter pour être heureux, non ?
Oui, alors il y a vraiment cette société de consommation qui s'est créée sur le désir, en fait. C'est-à-dire que on met des stars, on met des gens qui donnent envie, on a envie de porter la même chose qu'eux. Et on a vu un petit peu ça quand même après le premier confinement, une frénésie d'achat. On dit que face à la menace de s'entourer d'objets, ça rassure. C'est un effet psychologique.
Donc c'est encore le cas. On n'en est pas sorti de ce...
Non, il y a encore une partie de la population mais qui sont ceux qui possèdent le moins de choses et qui veulent rester dans cette... acquisition et qui rêvent de ce que possèdent les gens les plus riches.
Mais c'est quoi ? C'est pour s'acheter un statut social, en fait, c'est ça ? C'est avoir un joli portable, une belle télé, une belle voiture, avoir
parce
des
que
habits.
C'est le... Oui, c'est la publicité qui a créé cet imaginaire que si vous possédez tel objet, bah vous êtes comme l'acteur, vous êtes comme une personne qui est starifiée.
Mais ça, c'était
en fait,
vrai dans les années 80, 90, un peu 2000, mais on est encore dans ce schéma-là.
Il y a encore ça, c'est-à-dire qu'on sent que le mouvement il s'apaise un petit peu, on voit bien que finalement on est moins là-dedans. On a 30% des Français qui sont dans ce qu'on appelle la simplicité volontaire, mais ceux qui sont dans cette question-là, je me pose une question avant d'acheter, parce que le mieux c'est de ne pas acheter du tout en fait, pour la planète, pour l'écologie. Donc c'est vraiment des gens qui ont plutôt 60 ans, qui ont déjà tout. Donc en fait c'est ceux qui, pour qui c'est facile en fait, de se passer de ces objets, mais il y a des jeunes qui vont s'installer qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ont quand même besoin au moins de s'acheter de quoi se loger.
Et quand on est fouineur, c'est le principe des brocantes, moi j'adore les brocantes, on peut trouver des belles choses pour pas cher, Marine Foulon, donc on arrive aussi à se créer un univers, c'est aussi possible.
Oui, et puis il y a cette satisfaction justement d'avoir réussi à trouver soit l'objet qu'on voulait, soit de dénicher la perle rare. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup aussi dans les témoignages. Et le temps qu'on prend, la créativité, ça, c'est quelque chose qui est très valorisant aussi quand on achète d'occasion.
Olivier Guéron, on va peut-être rappeler, il nous reste quelques instants, juriste à l'association de consommateurs CLCV, les principes de base. Donc, on a balayé un peu tous ces sites, ces plateformes, les principes de base pour être sûr d'éviter les mauvaises surprises quand on achète quelque chose d'occasion. Et puis les arnaques, parce qu'il y en a aussi quand même.
Dans la mesure du possible, vous faites appel aux bouche à oreille. Vous allez sur un site qu'on vous a recommandé. Il faut privilégier les sites qui se situent en France, parce que sur Internet, c'est facile d'être à l'étranger et ça complique considérablement les recours.
Oui.
Ayez bien à l'esprit à qui vous achetez. Si vous achetez un professionnel situé en France, vous serez protégé par le code de la consommation. Si vous achetez un consommateur, a priori, non. Maintenant, peut-être que le site a mis en place des choses. Et puis, lorsqu'on achète un bien d'occasion, ça peut être intéressant de se faire communiquer la facture. Ça va vous éviter, par exemple, d'acheter un bien volé et de pouvoir utiliser les garanties commerciales si elles sont toujours en cours.
Et puis, pour être sûr qu'on fait une bonne affaire, peut-être comparer le prix neuf de l'objet en question, pour être sûr que...
Pour comparer le prix neuf
avec l'objet en question. Il n'y ait pas de, comme les histoires de fausses promos là, au moment du Black Friday. Vous voulez ajouter quelque chose sur les bons conseils pour les gens qui nous écoutent, parce qu'elle est belle ?
Non, je pense qu'en effet, on peut trouver de tout. Ce qui est important, c'est d'avoir confiance en qui on l'achète. Et c'est vrai que, par exemple, le moyen qui est mis en place où vous échangez, vous habitez pas très loin de celui à qui vous le vend, c'est une bonne façon d'avoir plus confiance.
Oui. Marine Foulon, on peut acheter uniquement d'occasion. Pour terminer, je voudrais à peu près m'imaginer à quoi ressemble votre intérieur, votre quotidien quand on n'achète que d'occasion. Parce que ça demande aussi beaucoup d'énergie. On passe son temps à aller chercher sur les sites, à aller chercher les produits, soit au point relais, soit chez la personne à qui on les a achetés. Donc, il y a toute une logistique aussi à mettre en place.
Mais en fait, c'est toute une démarche. Ça prend un petit peu de temps pour commencer. Il faut d'abord savoir ce qu'il y a autour de chez nous, est-ce qu'il y a une ressourcerie, une boutique Emmaüs, connaître les sites. Et en fait, après, ça devient des réflexes de « Ah, bah mon téléphone est cassé, qu'est-ce que je peux faire ? Où est-ce que je le remplace ?» Et assez vite, on prend des réflexes, on sait où on va pour trouver ce dont on a besoin, et ça prend de moins en moins de temps et ça devient de plus en plus agréable. Et à l'inverse, on trouve plus forcément de plaisir à aller dans les grands magasins.
Je comprends. Question très dure que je vais vous poser pour terminer. Est-ce que vous savez à peu près de combien ça fait baisser les dépenses de consommation habituelle par mois de faire que de l'occasion ? On a une idée ou pas ? Vous allez me dire, ça dépend comment on dépense.
Oui, je n'ai pas forcément de chiffres, mais par contre, on avait eu des super témoignages de participants au défi qui disaient que grâce à cette démarche, ils avaient pu s'offrir des vacances, des cours de théâtre, de faire des sorties culturelles, en tout cas, ils s'offraient des choses.
C'est un vrai effet sur le porte-monnaie. Mm-hmm. Bien, merci à tous les trois. Merci de nous avoir éclairés ce soir dans Europe Soir sur ce marché de la seconde main. 19h49, on se retrouve dans quelques secondes avec les archives d'Europe Soir. On va se faire plaisir à l'approche de Noël. Laïfi s'est invité sous le sapin. Vous vous en souvenez de la première année où les Walkman, ça va vous rappeler des souvenirs, sont arrivés sous les sapins. Et ben, on vous raconte tout dans quelques secondes. À tout de suite.